Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Si vous aimez le sport, le développement personnel, l'aventure... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui? Bon, bah si c'est pas un épisode comme les autres, on va pas faire d'intro. Je vous épargne le blabla de d'habitude. Vous savez, les reviews, le compte Instagram, tout ça. Si vous écoutez normalement cet épisode, c'est que vous connaissez déjà la chanson, vous connaissez déjà mon petit rituel de début d'épisode. Donc je vais pas vous la refaire, je vais pas vous épuiser avec ça aujourd'hui. Tout simplement parce que, bah effectivement, si vous écoutez un petit peu cet épisode, c'est que bah déjà ça me touche beaucoup. Parce que c'est que vous aimez le travail qui est produit et que vous avez envie de savoir plus sur la suite. Et vous avez envie d'en savoir plus sur l'avenir du podcast. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Ça va être vraiment un épisode assez riche, assez dense. J'ai mis un petit peu de temps avant de le préparer, notamment parce que je vous ai envoyé toutes les questions sur Insta, sur LinkedIn, par email. Et du coup, vous avez été nombreux à me répondre. J'ai pas pu récupérer tous les prénoms, notamment parce que sur certains comptes Instagram, il n'y a pas vos prénoms. Mais en tout cas, je vais à chaque fois citer celles et ceux qui m'ont posé des questions. On va répondre à tout, ça va être vraiment cool. Sachez qu'au départ, j'étais pas spécialement pour faire un épisode un peu bilan, un peu FAQ. En effet, il y a beaucoup de podcasteurs ou de créateurs de contenu qui font ce genre d'épisode, notamment pour créer du lien, pour aussi expliquer un peu à leur communauté dans quel sens ils ont envie d'aller. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais moi, je voulais pas vraiment le faire parce que j'avais un petit peu peur de me montrer, j'avais un petit peu peur de dire qui j'étais. Le fait de rester mystérieux, un petit peu secret, ça m'allait plutôt bien. C'était un petit peu dans ma stratégie. Je voulais être un peu l'intervieweur caché qui interviewe des super personnalités et je voulais un peu rester dans l'ombre. Et c'est un peu aussi ça, le fait d'être intervieweur, c'est... On va à la rencontre de personnalités vraiment de dingue. En tout cas, j'essaye d'aller voir des gens qui sont incroyables. Et forcément, à côté, moi, je me sens pas forcément légitime et je me sens pas forcément intéressant à côté de ces gens-là parce que c'est vrai que dans le sport, j'ai pas forcément des exploits aussi fantastiques que et je me suis tout simplement dit que l'avis de l'intervieweur, ça ne vous intéresserait pas. Et l'idée, en fait, finalement, de faire un épisode comme celui-ci, elle est venue de plein de personnes et elle est venue vraiment de vous parce que vous avez été très nombreux à m'avoir dit que vous souhaitiez un peu poser des questions sur l'avenir du podcast, que vous aviez des idées pour améliorer le contenu, pour améliorer les épisodes. Et aussi certains d'entre vous qui m'ont dit, on aimerait bien savoir qui tu es parce qu'à chaque fois tu poses les questions, tu lâches des petites miettes un petit peu sur ta personnalité, mais finalement, on sait pas qui tu es. Donc en tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a vraiment chamboulé parce que ça a changé mon état d'esprit et moi j'aime bien ce dicton qui dit il y a que les cons qui changent pas d'avis et moi du coup vous m'avez fait changer d'avis donc ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de recevoir vos messages d'avoir des gens qui me poussent un peu à me découvrir. C'est pas trop dans ma personnalité donc je vais essayer de le faire et de répondre avec brio. Mais juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes hyper impliqués dans ce podcast. Vous me recommandez des sportifs, vous partagez les épisodes, vous m'envoyez des messages pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Franchement, vous êtes géniaux, vous êtes des dingues. Je pouvais pas rêver d'avoir un public aussi impliqué et aussi passionné que vous. Ça me fait hyper chaud au cœur de constituer une communauté de sportifs passionnés, autant que moi. Moi, j'adore les histoires de sport, j'adore les récits d'aventure et je me connecte avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Donc, c'est vraiment super quoi. J'ai tous envie de vous rencontrer, j'ai tous envie d'organiser des choses. J'ai peut-être des petits projets par rapport à ça, donc je vais vous en parler juste après. Mais en tout cas, sachez que c'était une chose à laquelle je m'attendais pas du tout quand j'ai commencé. Je m'attendais pas du tout à avoir des gens aussi impliqués, aussi engagés. J'ai quelques copains qui sont journalistes. Bon, ils écrivent des tonnes d'articles, ils restent derrière, on va dire, derrière la coupe et derrière la marque d'un journal. Et finalement, ils ont très peu de gens qui viennent leur dire, j'ai aimé ton article, j'ai aimé ton contenu. Et c'est un peu ça aussi, peut-être la force du podcast ou la force de fait d'être indépendant, c'est que je suis proche de vous et je reçois tous les messages que vous m'envoyez. Donc, c'est vraiment trop cool. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de messages trop de critiques, donc je touche du bois jusqu'à présent. J'ai de la chance. Après, le jour où ça m'arrivera, d'ailleurs, j'espère que ça m'arrive parce qu'apparemment, il faut avoir des gens qui nous détestent pour si on veut être vraiment avoir du succès. Apparemment, c'est ce que j'ai lu dans un livre de Arnold Schwarzenegger. Il faut avoir des haters, comme il dit. Mais pour l'instant, j'en ai pas et je m'en réjouis parce que je pense que le jour où ça arrivera, ça me touchera autant que les compliments, que les messages d'encouragement. Donc pour l'instant, franchement, merci. Vous êtes vraiment, vraiment des dingues. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire participer, de pouvoir vous impliquer et d'avoir vos retours, quoi. Parce que sinon, je pense que si j'avais été tout seul, je serais jamais arrivé jusque là, jusqu'à ces 25 épisodes. Donc voilà, franchement, mille merci. Je vous kiffe. On va bientôt se rencontrer, vous allez voir. Ça va être vraiment très, très cool. Donc, je vais commencer avec la première question qui m'a été posée par Ulysse. Ulysse est un copain qui a créé aussi un petit podcast. Alors, j'ai oublié son nom, mais il l'a arrêté maintenant. Mais c'est quelqu'un qui écrit des super articles sur Medium. Ulysse Lubin, vous pourrez aller regarder, notamment si vous êtes un peu dans l'écosystème des startups. Il me demande qu'est-ce que le podcast a apporté personnellement. Alors, ça me touche que tu me poses cette question-là. Franchement, un milliard de choses. Je vais pas tout dire, mais je vais essayer de résumer en quelques points. Déjà, avant de commencer le podcast, je faisais quelque chose qui avait plus vraiment de sens pour moi et j'avais vraiment besoin d'un grand bol d'air et d'un grand changement. Juste avant, en fait, j'ai monté une boîte beaucoup par opportunisme avec des gens que je pensais être très talentueux et je l'ai fait pour ces gens-là et je l'ai pas fait pour le but, je l'ai pas fait pour les valeurs, je l'ai pas fait pour un objectif de vie et je l'ai fait pendant 3 ans et à la fin quand ça s'est arrêté, ça m'a fait très vraiment du mal et j'avais besoin de me relancer dans une nouvelle aventure, mais surtout j'avais envie de quelque chose qui soit aligné avec moi, en fait d'être aligné au plus profond de moi et que ça me corresponde à 100%. Et quand j'ai eu l'idée, Alors j'ai eu l'idée il y a très longtemps, mais quand je me suis lancé, on va dire plutôt, et ben tous mes amis à qui j'en ai parlé, tous m'ont dit, écoute, t'as encore rien fait, mais tel que tu le racontes, ça te ressemble énormément, donc fais-le, fonce. Et quand tes amis te disent ça, et ben des fois c'est qu'il faut vraiment y aller. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc la première chose que ça m'a apporté, ouais, c'est vraiment de faire quelque chose qui est aligné avec moi, avec mes passions, avec mes valeurs, et vraiment de faire quelque chose que je vis au plus profond de moi, parce que j'aime vous, mes auditeurs, j'aime créer du contenu pour vous, j'aime les sportifs que j'interview. Franchement, vous me voyez pas parce qu'il y a pas de caméra, mais j'ai une banane d'enfer quand je suis avec ces gens-là. Et quand je rentre chez moi et que je fais quand je fais le montage et tout, même si j'aime pas m'écouter, je me dis ah c'est cool. Franchement, j'ai réussi à les faire dire des choses à des gens qui sont intéressantes, et je pense que ça va intéresser. Donc c'est aligné avec moi, avec mes valeurs. Donc déjà c'est vraiment, ça fait un bien fou. Ensuite la deuxième chose, c'est que j'adore créer du contenu, j'adore créer de manière générale. Je suis quelqu'un qui a besoin en permanence de faire les choses, et le fait de pouvoir vraiment être vraiment dans la création. Là c'est du coup c'est de l'audio, je vais peut-être pourquoi pas faire un petit peu plus de l'écrit aussi, pourquoi pas faire de la vidéo, mais là ça me correspond vraiment, de pouvoir assouvir mon instinct créatif, on va dire. Une autre chose que ça m'a apporté, c'est vraiment le réseau. Alors c'est vrai que quand je me suis lancé, je me suis dit au pire ça intéressera personne, mais je me créerai un réseau de malades et j'aurai rencontré plein de sportifs hyper cool. Alors c'est vrai que j'ai rencontré plein de sportifs avec qui j'ai pu avoir une connexion un peu particulière, soit parce que en dehors du sport on avait d'autres passions, que ça soit l'entrepreneuriat, que ça soit effectivement un style de vie, la nutrition, la préparation mentale. Et il y en a plusieurs avec qui j'échange tous les jours, notamment j'ai reçu un mail il y a deux jours de Jérémy Azou, c'était mon épisode numéro 3, et tu vois, et on a gardé contact. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, et voilà, et avec d'autres j'essaye de garder un très bon contact aussi. Donc j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des gens inspirants. Comme je disais il y a deux minutes, ma précédente expérience entrepreneuriale était un petit peu toxique. J'étais avec des gens qui m'ont pas forcément tiré vers le haut. Et là, en fait, être avec tous ces sportifs, ça me tire vraiment vers le haut, parce que je me dis, ok, certes, je suis pas forcément à leur niveau. J'ai peut-être rien accompli de fantastique, mais en tout cas, j'ai envie d'être exemplaire quand je les interview. J'ai envie de savoir qui ils sont, de connaître leur sport. J'ai envie d'être capable de créer un lien avec eux. Donc vraiment c'est quelque chose qui me tire vers le haut. Après pour la partie un petit peu plus spotlight, je sais qu'il y a un autre podcast de sport qui s'appelle comme ça. Écoutez, pour tout vous dire, moi rien du tout. Franchement, que dalle. J'ai été invité à une soirée Bein par mon copain du Média Sans Filtre. Peut-être que vous m'avez connu par là. C'est un blog qui fait des interviews de sportifs, un peu comme moi, mais qui le fait par écrit, et qui le fait très bien. Ils sont vraiment chouettes. Ils ont fait plus de 300 ou 400 interviews, donc c'est assez balèze. Après, j'aime pas forcément lire ce genre de contenu, donc et je préfère l'écouter. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un terrain d'entente ensemble pour que je puisse être publié chez eux. Et du coup ils m'avaient invité, effectivement eux ça fait déjà 3 ans qu'ils existent, donc ils connaissent un petit peu plus de monde, et ils m'avaient invité à une soirée Bein où tu vois j'ai pu y aller. J'ai vu Luis Fernandez, pour la petite histoire, j'ai essayé de lui dire bonjour et il m'a dit bonjour, mais comme ils étaient tous occupés entre eux, j'ai pas pu vraiment connecter. J'ai essayé de rencontrer d'autres gens, mais finalement il y a un petit peu deux mondes, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu le monde de la télé, des médias très riches, et puis il y a un peu les autres. Et moi je fais un petit peu plus partie de cette catégorie là, surtout que je suis un indépendant. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres médias qui me voient comme un concurrent. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui me voient comme quelqu'un qui a pas de diplôme, quelqu'un qui s'auto-prétend journaliste. Alors je me prétends pas du tout journaliste, mais Ben, je le dis honnêtement, je me crée ma place avec les dents, avec les poings, et je vais éclater cette petite bulle un peu privée, et franchement, je vais créer ma place, quoi. Et je suis hyper content de ce que je fais. Je le fais tout seul. Tout le travail que je fais, c'est mon propre mérite. Donc voilà, j'ai peut-être pas les lumières du grand public. Je suis peut-être pas invité sur des plateaux télé, pas encore. Hein, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas. Tout ce que je fais, je le dois qu'à moi-même et franchement ça me motive encore plus. Donc ça c'est vraiment une grosse dose de motivation, c'est de pouvoir me dire ok de quoi je peux être fier. Et franchement mon podcast je peux en être fier parce que bah je dois rien à personne, j'avais pas de contact, j'avais pas de piston. La seule chose que j'ai fait c'est prendre mon sourire, prendre mon courage à deux mains et aller voir les gens et leur demander de manière sympa et polie, de pouvoir me raconter leur histoire. Et ça l'a fait, quoi. Donc voilà. Et bah, j'en profite aussi pour remercier infiniment, quoi, les personnes qui m'ont fait confiance au début. Je pense à Vincent qui m'a fait une intro à Jérémy Azou, justement. Je pense à Hélène qui m'a fait... Non, Sophie qui m'a fait une introduction à Hélène pour mes premiers épisodes. Je pense à Gaël aussi qui m'avait présenté Arthur Guérin, l'apnéiste. Vraiment, c'est des gens qui au début m'ont fait confiance et m'ont dit de foncer et qui m'ont présenté à des sportifs et alors que j'avais rien, quoi. J'étais un inconnu complet et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu sortir mes trois premiers épisodes et que je me suis dit ok bah ça vaut le coup de se lancer. Question suivante. Mathis, comment sélectionnes-tu les personnes que tu vas interviewer? C'est une très bonne question et ça va beaucoup changer en 2020. Sache que jusqu'à présent, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de sportifs qui ont soit des agents, soit qui ont très peu de temps, soit qui sont en préparation de JO, ou soit qui n'ont pas envie de passer sur un podcast qui... bon, bah aujourd'hui, on est plus de 15 000 à écouter chaque mois, mais au début, bah voilà, il n'y avait pas grand monde. Donc, il n'y avait pas forcément des sportifs qui avaient envie de jouer le jeu. Et ce qui est normal. Donc, au début, j'ai vraiment pris trois types de sportifs. Le premier type de sportif, c'était... Les sportifs que je pouvais avoir dans mon réseau direct. Donc, comme je l'ai dit, mes trois premiers invités, Arthur Guérin, c'est Gaël Jande qui a un podcast qui s'appelle Pépite Casse, qui me l'a présenté. Jérémy Azou, c'est mon pote Vincent qui me l'a présenté. Et Hélène, c'est une amie, Sophie, que j'ai rencontrée. Enfin, on a une amie d'amis qui me l'a présenté. Au début, ça s'est vraiment fait comme ça. Et c'est aussi ça qui m'a donné la question que je pose à la fin. Quel est le sportif que tu me recommandes? Parce que vraiment, ça me fait gagner beaucoup de temps quand je suis introduit par quelqu'un. La deuxième source, c'est les gens qui ont déjà participé à un podcast. Je pense à Stéphanie Jiquel, je pense à Vincent Defrane, ou Marie-Amélie Le Fur. C'est des gens qui connaissaient du coup ce format-là et qui n'étaient pas intimidés, qui connaissaient, qui savaient que c'est un format hyper agréable. Franchement, moi, tous les sportifs, quand ils terminent une interview avec moi, ils me disent « Ah, mais en fait, c'est super cool !» Bah ouais, je leur dis « Ouais, il n'y a pas de caméra, on est détente, on est posé, on se prend un petit café, un petit verre d'eau, on discute, on rigole, si on a besoin de couper le micro à un moment, on le fait, on se prend pas la tête. » Et ça, ça c'est une énorme force parce que du coup, quand quelqu'un a déjà participé à un podcast, et ben tout de suite, quand il y a un autre podcasteur qui vient lui demander, et ben ça marche super bien. Ensuite, bah comment est-ce que je sélectionne? J'ai une énorme liste avec tous les noms que vous me donnez et je fais mon maximum pour essayer de pouvoir en interviewer. Mais sachez que voilà, c'est compliqué parce que des fois c'est difficile de trouver le bon canal par lequel échanger avec eux. On faut souvent essayer sur plusieurs réseaux, Facebook, LinkedIn, après essayer par email, essayer via Instagram. Et à la fin, bah des fois moi potentiellement je peux m'y perdre et ça m'arrive. Et puis de perdre un petit peu le fil. Et puis le format du podcast en fait est pas forcément connu, donc les gens se posent un petit peu des questions de savoir comment ça se passe, est-ce que t'es connu? Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous demande aussi de mettre des reviews sur Apple Podcast, parce que quand je leur envoie le lien et quand ils voient waouh, il y a 150 personnes qui l'ont noté, Eh ben, ils se disent, OK, c'est pas mal. Mais bon, sachez que les plus gros podcasts aujourd'hui en France, les plus gros podcasts indépendants, ils sont à 4000. Donc j'ai encore du chemin à faire. Les gros podcasts de sport, je crois qu'ils sont entre 300, entre 400 et 600, hein, de mémoire, 400 et 700. Dans la tête d'un coureur, ils doivent être à 700 à l'heure actuelle. Et le Spotlight, un petit peu moins, mais voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc si je pouvais arriver à peu près leur niveau, eh ben en fait je pourrais leur dire voilà, tel podcast il fait tant, donc moi aussi ça vaut la peine. Et il y a des gens qui m'ont clairement dit bah non, pour l'instant on pense que t'es trop petit et ça ne vaut pas trop la peine, notamment des agents. Voilà, les agents ils sont très sollicités et c'est pas facile d'échanger avec eux, il faut créer une relation long terme. Donc ça c'est vraiment un des projets que je vais avoir pour 2020, c'est vraiment de progresser sur ma relation avec les agents et de un peu mieux connaître les codes de cet univers là. Donc voilà, vous savez tout sur comment est-ce que je les sélectionne, mais voilà, ma grosse prio c'est les recommandations des podcasteurs et vos recommandations à vous. C'est surtout comme ça que je fonctionne. Alors ensuite, c'est une question de Lise du compte Infinité Coaching. Comment prépares-tu un podcast? Quel est le temps consacré à la préparation, etc. Ouh. Alors, vous allez voir, c'est énormément de temps. Faut savoir que quand j'envoie des emails, bon, on va commencer par le début. Je vais vous faire toutes les étapes. La première étape, c'est de rencontrer les sportifs. Déjà, quand j'envoie des emails, j'ai à peu près une réponse sur 20, une réponse sur 25, et on va dire une sur deux est positive. Donc, pour 50 emails, j'ai à peu près une réponse positive. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Ensuite, il faut que j'arrive absolument à avoir la personne au téléphone. Quand j'ai la personne au téléphone, ça permet un peu de s'engager. Ça me permet de lui dire les valeurs du podcast, de lui dire comment ça va se passer, comment je m'organise, de lui dire que c'est toujours moi qui vais à sa rencontre, que ça dure une heure et demie, que c'est vraiment détente, qu'on peut couper des passages, que c'est pas du direct, que vous êtes, tranquille chez vous, posé, et que vous êtes des passionnés d'histoire de sport, donc que les gens attendent une belle histoire et pas forcément quelqu'un de fermé ou pas forcément quelqu'un qui se la raconte. J'ai vraiment besoin de passer cet appel. Généralement, ça dure entre 20 et 25 minutes. Ensuite, je leur envoie un email récapitulatif avec les 10 questions de la fin. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, les 10 questions de la fin là que je pose depuis une dizaine d'épisodes. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir si ces questions-là vous plaisent. Moi, je les trouve assez chouettes, mais si vous avez d'autres idées, dites-les-moi. Donc voilà, je leur envoie ces questions-là, je leur envoie un récapitulatif et aussi le lien du podcast si jamais ils veulent écouter. Ensuite, il faut qu'on fixe une date et un lieu. Donc généralement, on fait par email, on prend le temps. Ensuite, je prends des billets de train à ce moment-là, sachant que je suis déjà allé très loin et que des fois, un aller-retour en train, bah, des fois, ça me coûte 20 euros aller-retour, comme quand je vais à Rouen, par exemple, voir Francky Batelier. Mais des fois, bah, ça me coûte 70-80 euros quand je vais à Lyon voir Johan Stuck, ou des fois, bah, ça m'a coûté, je crois, une fois 120 euros. 120 euros, c'était pour aller où je sais plus exactement. Mais voilà, des fois, ça me coûte vraiment cher. Une fois que j'ai les billets de train, je me dis, OK, là, c'est sûr, ça va se faire. L'interview, elle est OK. Donc là, pendant une matinée, généralement, je m'imprègne un peu de la personne, on va dire entre 2, 3, 4 heures, où je vais lire du contenu sur elle, je vais vraiment essayer d'imaginer un petit peu l'interview. Je me fais une petite séance de 20 minutes de visualisation, je m'allonge dans mon lit, je ferme les yeux, je me dis OK, qu'est-ce que je peux lui poser comme question, comment est-ce que la personne elle va être, j'essaie de regarder des vidéos un peu aussi. Et ensuite, je laisse couler. Je note, je prends quelques notes, je mets des mots-clés. Mais je laisse couler, vraiment je laisse couler. Et après, quand je vais faire du sport, quand je vais être sous la douche, bah là je vais avoir des idées qui vont me sauter à l'esprit. Et du coup, bah c'est ces idées-là que je vais garder et que je vais réécrire. Je vais les noter. Ensuite, le jour J, bah, généralement je me lève très tôt pour prendre le train et pour essayer d'être là-bas vers 11h midi. Dans le train, en fait, je note toutes les questions que j'ai envie de poser, vraiment à sec, enfin à chaud, en fait, la pression monte et tout. Généralement, j'ai un peu le trac, donc je passe aussi 20 minutes à fermer les yeux et à me donner la patate, quoi. Je me répète des phrases motivantes, je me dis allez, ça va. ça va être super sympa, la personne elle va être super cool, faut que tu aies le sourire, il faut que tu sois motivant, il faut que tu sois bien dans tes pompes et ça va bien le faire. Ensuite, je fais quelques exercices de vocalise. C'est assez marrant, hein. Je me décontracte les cordes vocales. Alors je vais pas vous le faire à l'antenne parce que franchement c'est la honte, mais je fais des bruits bizarres en gros pour relâcher mes cordes vocales, pour pas avoir ma voix qui saute, parce que je me suis cassé les cordes vocales il y a quelques années et du coup mon orthophoniste m'a donné des astuces pour pas me casser la corde vocale, mais ça peut m'arriver, donc voilà, je fais attention pour essayer de poser ma voix et essayer d'avoir une belle voix. Et puis après l'interview se passe, on se rencontre, voilà, enfin du coup j'ai le sourire, je suis à fond, je pose plein de questions, je fais un peu le zébulon, j'essaie d'avoir le sourire, confiance en moi, je déroule mon truc, franchement je me mets dans ma bulle et je déroule, quoi. Je pose des questions à l'invité pour qu'il parle, pour qu'il soit à l'aise. J'essaie de le faire rire un peu. Et puis pendant ce temps-là, bah voilà, je vais sortir mon matos, je vais sortir mon ordinateur. Je vais commencer à essayer de repérer des petits trucs chez l'invité. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il se sent bien? J'essaye un peu, voilà, de le faire parler, de le mettre à l'aise. Et de le faire rire, c'est vraiment important. Et puis généralement on se lance et puis tout se passe bien, ça se passe direct et c'est assez chouette. Et ensuite je boucle les affaires. Généralement on passe du temps après l'interview. C'est rare que je m'échappe. Généralement on parle et en fait c'est à un moment c'est un petit regret. J'aimerais bien avoir le micro qui sont encore allumés, parce que il y a certains sportifs qui m'ont dit des trucs de ouf, quoi. Là je pense à Maxime Beaumont, le kayakiste, qui était un peu fermé pendant l'interview, enfin j'ai trouvé, et quand on a fermé le micro, voilà, il a pu me parler de son fils, il a pu me parler du dopage, il m'a parlé d'un athlète typiquement qui avait eu une médaille d'or mais au JO après qu'un concurrent soit déclassé, mais il me dit ouais mais en fait le chèque déjà tu l'as pas, la Marseillaise tu l'as pas, les sponsors, les médias, tout ça tu l'as pas, et ça t'aide énormément quand t'es un sportif. Donc c'est bien beau d'avoir la médaille d'or après coup, mais en fait ça vaut pas grand chose. Et il m'a parlé un petit peu de ces choses là du dopage et tout, donc c'était assez touchant. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place, de garder un petit peu des passages après et de garder le micro ouvert pour pouvoir garder des petites pépites, parce que à chaque fois, dès qu'on éteint le micro, il y a 10-15 minutes en plus et où on peut échanger, et vraiment il y a des choses qu'on m'a dit, bon, que du coup je vais pas répéter, parce que si la personne elle est pas ok, si j'ai éteint mon micro, c'est aussi mon contrat vis-à-vis des sportifs, c'est de pouvoir leur dire il y a un espace de parole et quand il est terminé j'enregistre plus, donc je répéterai pas forcément, en tout cas pas à l'antenne, mais voilà, il y a toujours des petits moments en dehors des conversations en dehors de l'interview qui sont vraiment cool. Donc là vous avez toute la partie désolé j'ai beaucoup parlé, mais voilà, vous avez toute la partie vraiment sur le comment est-ce que j'enregistre, comment est-ce que ça se passe. Ensuite je rentre, je reprends le train, là à ce moment-là j'essaye de commencer le montage, mais en fait j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'intro, donc je rentre chez moi, j'enregistre l'intro, je termine le montage, ensuite je passe le fichier son dans un logiciel donc je monte avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Une fois que c'est terminé, je le passe dans un logiciel qui s'appelle Ophonic, qui permet de bien égaliser et d'avoir toujours les mêmes volumes de son. Une fois que j'ai ça, j'essaie de repérer 3 ou 4 phrases marquantes, et du coup je vais faire les petits posts pour Instagram et maintenant pour la page Facebook. Donc voilà, petit aparté, il y a une page Facebook maintenant si vous avez envie d'aller le voir. Il y a même un compte YouTube où il y a toutes les interviews si vous préférez aller écouter sur YouTube. Voilà, donc je vais préparer les visuels pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Je vais préparer la vidéo pour YouTube et je vais planifier tout ça. Et après j'utilise un outil qui s'appelle Buffer où je peux planifier à l'avance. Après, pour toute cette partie des réseaux sociaux, ça m'arrive beaucoup plus souvent de le faire un petit peu au dernier moment, sachant que j'ai envie aussi de l'écrire un peu dans l'instinct, parce que Parce qu'il y a peut-être une actu au moment où le podcast est posté, peut-être que j'ai envie de vous dire un truc particulier. Mais en tout cas, voilà, il y a la newsletter. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup, vous avez une centaine à suivre la newsletter. Il y a les posts sur Instagram, le Facebook qui vient d'être lancé aussi, vous n'êtes pas beaucoup. Et je vais essayer de faire du contenu unique pour Facebook, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, il y a la vidéo sur YouTube, et après j'ai une grosse communauté sur LinkedIn qui me suit, où je raconte plus, on va dire, mes aventures de podcasteur ou des choses par rapport au podcast. Donc je présente les épisodes d'une manière un peu autre. Mais voilà, généralement la partie un peu réseaux sociaux et communication, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, là vous avez vraiment toute vous avez tout. Ah ouais, le jour J aussi, j'envoie le lien avec un petit mail explicatif à l'invité pour lui dire, bah voilà, sachant qu'on s'est déjà mis d'accord sur la date de publication, je le préviens avant et je lui dis, bah voilà, si tu veux partager, c'est tel lien qu'il faut partager, voici, voilà, voilà, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux dire. Et en fait, je leur prémâche presque le travail et je fais le post sur les réseaux sociaux à leur place, parce que bah, c'est vraiment, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup d'audience quand ils partagent, notamment sur Facebook. Ensuite, une question de Anthony. Comment t'es venu l'idée du podcast? Très bonne question. Comment m'est venue l'idée? En fait, je l'ai eu il y a 3-4 ans. Je crois il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis tombé dans le bain du podcast via les podcasts business. Comme je vous l'ai dit, bah, j'ai monté plusieurs boîtes et j'écoutais énormément de podcasts d'entrepreneurs. Un petit peu comme extraterrien, mais au lieu d'interviewer un sportif, d'interviewer un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise, quelqu'un qui a fait une super carrière. Donc il y avait beaucoup de podcasts américains à l'époque qui parlaient un peu de ça. Les podcasts que j'écoutais et que j'adorais, en numéro un, il y avait Timothy Ferris, qui est un grand influenceur américain sur l'entrepreneuriat. Il y avait aussi Joe Rogan, qui est un combattant de MMA, qui m'inspire beaucoup, et qui interviewe à la fois des entrepreneurs, à la fois des artistes, des comédiens, et à la fois des boxeurs et des combattants de MMA. Parce que voilà, il interviewe un peu des gens dans ces différents univers, vu qu'il a été comédien et grand champion du UFC. Voilà, Timothy Ferris, Joe Rogan, il y avait Rich Roll aussi, il y avait Jonathan Levy avec la Super Human Academy. Ils disaient qu'ils interviewaient énormément de sportifs, mais en fait non, ils interviewaient très peu de sportifs, à part Rich Roll qu'on interviewait un peu plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça pourrait être génial de faire ça, mais qu'il y ait vraiment beaucoup plus de sportifs. C'est bien les entrepreneurs, c'est cool, mais moi j'ai envie de savoir en fait c'est quoi les secrets des champions, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils se préparent. J'ai envie de savoir tout ça. Donc j'avais noté l'idée, et j'avais noté l'idée sur une feuille de papier, et j'avais mis, je m'en souviens, hein, je me dis possibilité d'en faire l'argent 2 ou 3 sur 10, kiff, j'avais mis 10 sur 10, et possibilité de se démarquer des autres, 9 sur 10. Voilà, j'avais mis ça. Et compétences possédées, bon, j'avais jamais fait de montage son, j'avais jamais fait d'interview, mais bon, c'était pas compliqué, donc j'avais mis une bonne note. Et j'avais gardé cette idée-là, et j'ai un carnet avec toutes mes idées. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire sur une prochaine fois toutes les idées qu'il y a dans ce carnet. Donc c'est vraiment des idées farfelues. Et voilà, et j'ai monté ma boîte pendant 3 ans. Et du coup, j'ai laissé complètement l'idée tomber. Il y a tous les podcasts en France qui sont arrivés. Je pense à Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, un podcast que j'adore. Je pense au Gratin, je pense à Nouvelle École. Voilà, il y a le Spotlight qui s'est lancé juste après. Et du coup, quand j'ai arrêté ma boîte, je me suis dit, mais en fait, ce podcast de sport, il pourrait très très bien exister en France. Et effectivement, il y en avait quelques-uns qui s'étaient lancés. Et ça me plaisait pas trop. En fait, j'étais pas... Si, enfin, j'adore ce qu'ils font, mais je me suis dit, c'est pas le podcast de mes rêves. Donc je me suis dit, allez, je vais lancer le podcast de mes rêves, je vais contacter tous mes contacts et je vais leur demander s'ils peuvent pas me présenter à des sportifs. J'en fais 5. Je fais 5 épisodes. Si ça me plaît, je continue, je me lance un nouvel objectif. Si ça me plaît pas, tant pis, bah, je revends le matériel. Le matériel, il coûte 500 €. Voilà, je le revends. Au pire, j'ai perdu un petit peu d'argent. L'hébergement, c'est gratuit. Donc, ça m'aura pris un petit peu de temps, ça m'aura coûté un petit peu d'argent, mais au pire je m'arrête. Donc, Donc c'est comme ça que je me suis lancé, comme ça que j'ai eu l'idée, et c'était vraiment par la voix du podcast, quoi, en écoutant beaucoup. Donc je sais pas si l'histoire est passionnante, mais au moins vous savez tout. Ensuite, j'ai une question de Ludovica. Est-ce que tu as un modèle économique? Comptes-tu en vivre bientôt? Alors, sur le podcast, on va dire qu'il y a il n'y a pas beaucoup de modèles économiques. C'est soit le podcast, c'est un média. Donc, soit on utilise, c'est comme un blog ou une page Facebook ou un compte YouTube. Donc, soit on utilise le podcast comme un média et en fait, qui va servir à faire la publicité d'un autre service. Donc, typiquement, dès qu'une marque fait un podcast, ça peut rentrer dans cette idée-là. Il y a beaucoup de marketeurs qui utilisent le podcast aussi pour vendre derrière leur formation. C'est quelque chose qui me donne des idées, mais pour l'instant rien s'est concrétisé. Donc ça, c'est le premier business model, en gros, c'est de se dire le podcast je vais pas essayer de le rentabiliser. Le podcast, c'est pour acquérir des nouveaux clients, parler de mon produit, parler de mon service, et du coup ça va ramener des gens. Typiquement, Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, il interviewe des entrepreneurs, lui il a une agence, tous les gens, il interviewe des entrepreneurs brillants, du coup les gens qui l'écoutent se disent ah bah Mathieu Stéphanie aussi doit être brillant. Si Mathieu Stéphanie est brillant, c'est que ses équipes doivent être brillantes, du coup son agence est brillante, du coup si j'ai besoin de faire un site internet ou si j'ai besoin de faire quelque chose dans de la tech ou dans du digital, je vais l'appeler parce que je pense que ce qu'il fait c'est bien. Voilà, c'est son et c'est plein de biais cognitifs, hein. Et quand je vous détaille le processus d'idée, c'est pas forcément logique, mais en tout cas c'est exactement comme ça que ça se passe dans la tête des gens. Et lui, ça lui a vraiment fait exploser son business, hein. Son agence, elle a vraiment grossi depuis le podcast. Donc vraiment, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de travailler avec les marques. Il y a deux façons. C'est soit avec des messages publicitaires. Typiquement, on peut m'envoyer un produit. D'ailleurs, il est possible qu'en ce moment, vous en ayez eu un juste avant. Où en fait, on fait ce qu'on appelle du host read. Donc c'est l'hôte, moi, qui rit,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Lis le message publicitaire. Il est possible que vous ayez un message publicitaire avant cet épisode parce que c'est le modèle que j'ai un peu choisi à court terme. En tout cas, le modèle que j'ai choisi pour rentabiliser les 6 premiers mois et la première année de podcasting avant de pouvoir faire des choses plus grosses. Notamment pourquoi ? Parce que il y a eu très vite une audience assez ciblée. Notamment, je vais être transparent, il y a 2/3 d'hommes à peu près qui écoutent le podcast et des podcasts avec plus d'hommes que de femmes, c'est très rare. Du coup, les annonceurs, en fait, finalement, ça les intéresse. Donc, voilà, ça va m'arriver de tester des produits et de vous les proposer. Alors, sachez une chose, on m'a déjà proposé 4 ou 5 produits et j'ai refusé. Ouais, on m'a proposé 5 campagnes et j'en ai accepté qu'une. Et là, aujourd'hui, la première que c'est pour un podcast. Qui est super cool, qui s'appelle Cours Redouane Cours d'ailleurs, et qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est en train de. C'est Redouane qui est en train de préparer un marathon alors qu'il est obèse et il s'est fixé l'objectif de courir le marathon en 500 jours. Et je trouve que le concept est très cool. Et voilà, du coup, je recommande uniquement des produits que j'aime bien. On m'a proposé des produits que je trouvais mais pas du tout en accord avec vous, pas du tout en accord avec les valeurs du podcast, des produits que je trouvais naze. Bon, j'ai refusé. Moi, mon premier objectif, c'est que vous vous dites, ok, ils nous recommandent pas n'importe quoi, parce que il y a une confiance qui se crée. Moi, j'ai confiance en vous pour écouter les épisodes. Vous avez confiance en moi pour pas produire du contenu naze et pas vous recommander des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, si jamais il y a des produits que je recommande, mais ça va peut-être arriver, que vous trouvez farfelu, dites-le moi et comme ça je le saurai et je saurai que c'est pas pertinent. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu une voie simple et assez efficace pour effectivement que je puisse faire mes premiers revenus. Alors c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose parce que les podcasteurs facturent généralement au coût par mille, donc on appelle le CPM, donc c'est par volume d'écoute. Donc sachant que le volume d'écoute est encore assez faible, je peux pas voilà, la première facture que j'ai envoyée pour 2 semaines de sponsoring, c'est 300 €. C'est vraiment pas grand chose, mais au moins ça me permet de me lancer. En plus ça va augmenter, hein, les prix vont augmenter, l'audience va augmenter et tout, mais et comme on dit, les sponsors attirent les sponsors, mais pour l'instant je peux pas en vivre, mais au moins ça me rembourse les billets de train, ça amortira le matériel et ça me permettra de pourquoi pas travailler avec d'autres gens et pour pouvoir vraiment progresser. Une autre idée que j'ai eue et que ça va sûrement se faire, c'est les marques en fait ont souvent des ambassadeurs et les marques aiment bien communiquer via leurs ambassadeurs. Donc moi je vais peut-être organiser avec des marques en fait des podcasts avec des sportifs, mais en fait sous les gérées d'une marque. Donc en fait, imaginons il y a une marque de vêtements qui travaille avec quelqu'un qui fait de la course à pied et qui est un super ambassadeur et tout, qui communique, la marque va me proposer d'interviewer ce sportif et de pouvoir parler de la marque à certains moments de manière un petit peu plus subtile. Et je trouve que c'est très sympa. Je trouve que c'est une meilleure manière de faire. Donc ça, il y en aura sûrement. Et ça, c'est plus intéressant parce que moi, je peux rencontrer la marque, je peux rencontrer le sportif. Il y a une petite histoire humaine qui se crée et c'est vraiment du long terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je compte faire. Et ensuite, sur les modèles économiques, il y a aussi des gens qui font des épisodes live. J'ai quelques petites idées et j'espère que je pourrai le faire. Ensuite, j'ai une question de John. Quels sont les projets pour 2020? J'en ai plein. J'en ai plein. Je vais essayer de faire court. Mon premier projet, et je pense que c'est le plus important, c'est que normalement, au mois de mars, si tout va bien, une grande et joyeuse nouvelle va m'arriver puisque je vais être papa pour la deuxième fois avec ma chérie. Et enfin, c'est la première fois qu'on a un enfant tous les deux, mais moi, c'est mon deuxième enfant. Il va s'appeler Solal et j'ai vraiment hâte de ce moment-là, parce que ça va être un moment partagé, un moment d'amour, de couple, et c'est quelque chose de très important pour moi. Donc ça va être mon premier projet pour 2020, ma deuxième paternité, et voilà, j'ai un premier enfant qui vit très loin, qui vit en Thaïlande, parce que voilà, j'ai rencontré sa mère il y a très longtemps, et on n'a jamais réussi à vivre une vie de famille, et on s'est même déchiré, on s'est fait du mal. Du coup, je vois mon fils 2 à 3 fois par an quand je vais le voir. J'ai le projet aussi de le faire venir en France. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette histoire, il y a un podcast avec sur Histoire de Daron. Si vous pouvez taper Histoire de Daron et Barthélémy dans Google, je raconte toute cette histoire à ce moment-là. Donc, je vais pas le répéter ici. Mais si vous écoutez, vous comprendrez que ma paternité, c'est quelque chose de très important et que j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment envie d'être à fond dedans. Voilà, j'ai envie de le vivre à 200%. Ensuite, concernant le podcast, j'ai deux vraiment ma priorité, c'est vraiment d'augmenter la qualité du contenu. Et je compte le faire par plusieurs moyens. Le premier, c'est d'aller chercher soit des sportifs qui sont plus à l'aise avec les médias et qui parlent mieux et qui seront capables de délivrer des interviews vraiment de meilleure qualité. Donc ça sera sûrement des sportifs plus médiatiques qui pourront aussi moi me permettre de faire grossir l'audience, et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO, parce que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Et je pense que ça peut être super intéressant. Et notamment, je pense que j'ai une carte à jouer professionnellement, en tout cas en tant que podcasteur, sur la carte des JO, parce que tout simplement parce que voilà, et je pense que je suis déjà en contact avec quelques marques pour aller là-bas et potentiellement être reporter. Donc ça serait génial. J'adorerais pouvoir vous faire un épisode par jour avec des sportifs qui sont là-bas, qui sont sur place, ou des sportifs ou peut-être des supporters, des coachs, mais vraiment être sur place et vraiment pouvoir vraiment vous parler de cette ambiance là ça va vraiment vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Aussi, c'est possible que je sois mis en avant peut-être par les plateformes, par certains médias, donc je pense qu'il y a une bonne carte à jouer. Donc vraiment, au niveau de voilà, sur les 6 prochains mois, je vais essayer d'avoir des sportifs à la fois plus médiatiques et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO. Ensuite, j'ai un autre projet de podcast et qui va d'ailleurs être en lien avec la prépa pour les JO de Tokyo. Ça va s'appeler Dans les vestiaires. C'est avec mon copain Hermano qui est dans le podcast de Nakan, qui est un podcast sur la course à pied. On a déjà fait un petit crossover il y a pas très longtemps. Et lui, en fait, il a une amie qui peut se qualifier pour les JO sur le marathon. C'est une Française, mais en fait, elle manque énormément de moyens. Et du coup, il a eu l'idée, lui, d'aller interviewer des sportifs de haut niveau pour leur demander comment est-ce qu'ils se sont financés et pour trouver des idées pour aider son ami à se financer. Donc moi, quand Hermano, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, je vous encourage à écouter son podcast, ce qui est vraiment quelqu'un que j'ai découvert par le podcast et c'est les rencontres qui sont vraiment très chères. Et du coup, quand Hermano m'en a parlé, j'ai tout de suite dit ok, je veux bien t'accompagner, j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment, si je peux faire quelques épisodes avec toi, ça serait super. Donc on va lancer ça courant janvier. Ça s'appelle Dans les vestiaires, ça va être vraiment cool. Donc n'hésitez surtout pas à aller écouter, ça va être top. Et ensuite, le dernier sujet, c'est être capable de trouver plus de sponsors et d'essayer d'être capable d'en vivre. Là pour l'instant, le podcast, on va dire que ça me coûte, on va dire, entre 200 et 500 euros par mois. Donc déjà, fermer les robinets, mais en tout cas, être capable de trouver une source de revenus pour compenser cette dépense d'argent, qui est essentiellement du billet de train, des transports. Et une fois que j'aurai fait ça, bah pourquoi pas en vivre. Je pense que voilà, il faut voir sur le long terme. J'ai la chance de pouvoir avoir une autre activité à côté en ce moment et du coup en tant que freelance je peux en vivre, mais voilà, le podcast ça me plaît vraiment beaucoup et du coup j'ai envie de pouvoir le faire à fond et à 100%. Je suis persuadé que je pourrais faire des super contenus si j'étais à 200%, et notamment si j'avais pourquoi pas quelqu'un qui m'aiderait un petit peu sur le montage ou un petit peu sur les réseaux sociaux, ça pourrait me libérer du temps et vraiment créer des projets encore plus ouf. Voilà. Est-ce que j'ai des idées pour décliner le concept et la marque extraterrien? Super idée. Bah, j'ai une vision très long terme. En fait, j'aimerais bien monter un autre podcast et aller interviewer, plutôt que des sportifs, aller interviewer des experts dans des domaines particuliers et dans les domaines pour vous aider en fait à être des meilleurs sportifs, à être des meilleures personnes, pour être en meilleure santé, pour être en meilleure forme. L'idée, allez voir, je sais pas, si demain vous avez envie de vous mettre, je sais pas, au régime paléo. Moi, j'ai réinterviewé l'expert du régime paléo qui explique tout de A à Z, les bienfaits, comment commencer, et les erreurs que les gens font, aller interviewer et faire des épisodes un peu comme ça. Ou sur le sommeil, aller voir, je sais pas, des coachs du sommeil, aller voir des gens, par exemple, imaginons, vous voulez bosser votre endurance fondamentale, allez voir un coach qui est spécialisé dans l'endurance fondamentale et qui vous explique exactement quels sont les principes, quels sont les livres à lire, comment est-ce que vous devez vous entraîner. Donc je pense que je l'appellerai sûrement Super Terrien, et l'idée derrière ça, ce serait donc de faire un deuxième podcast et pourquoi pas de faire une académie avec des cours peut-être privés où vraiment on pousserait chaque concept à fond. Donc il y aurait de la nutrition, il y aurait du sommeil, il y aurait du style de vie, développement personnel et aussi beaucoup beaucoup de sport, vous vous en doutez, et d'aller interviewer, d'aller chercher des super coachs et avec eux en fait créer des petites formations en ligne qui soient pas très chères mais qui pourraient vous permettre en fait tout simplement de passer un cap. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour que je les accompagne dans leur préparation mentale. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je fais de la visualisation, je fais de la préparation mentale. Je le fais surtout avec des gens qui sont professionnels, donc des managers, donc que j'aide à devenir de meilleurs managers. Et vraiment, je les coach de manière très simple. Donc, je suis plutôt sur la partie mentale que sur la partie vraiment sport. Et j'essaie d'être hyper professionnel et j'ai des super résultats. L'un des managers que j'ai coaché, il a doublé son chiffre d'affaires en 3 mois, donc je suis très content. C'est aussi une expertise que je compte créer extraterrien dans de la préparation mentale et dans du coaching. Ça me plairait beaucoup. Alors ensuite, il y a Anne-Claire et Antoine. Comptes-tu traiter de sport plus confidentiel Et pourquoi et Antoine qui m'a dit plus particulièrement le Spikeball. Bon bah je vous l'ai dit plus tôt, les 6 prochains mois, je me projette pas plus loin, mais les 6 prochains mois ça va vraiment être orienté JO, ça va vraiment être orienté Tokyo et ça va vraiment être orienté sur des sportifs un petit peu plus médiatiques. Donc c'est pas encore prévu. Est-ce que tu vas interviewer Sullivan qui me dit est-ce que tu vas interviewer des gens qui sont méconnus? Alors oui, j'ai quelques noms dans les cartons, notamment une fille qui s'appelle Alexandra Caldas qui a traversé c'est l'Atlantique à la rame. Elle a une super histoire, notamment parce qu'elle c'est une asso contre la mucoviscidose. J'ai aussi une autre personne avec que j'aimerais bien interviewer qui a eu un cancer du testicule et qui aujourd'hui est un coureur hyper inspirant. Donc j'ai quelques noms dans les cartons que je vais faire des épisodes, mais c'est vraiment pas ma priorité. Je suis transparent avec vous, notamment parce que c'est assez compliqué d'avoir des gens qui sont méconnus. Parce que je sais pas comment driver l'interview en fait. Si j'ai pas du contenu web, je sais pas une vidéo, des articles, je sais pas trop quoi leur demander, je sais pas trop sur quel terrain les amener. Et du coup, c'est pas évident de préparer des interviews de qualité. Mais si vous en avez, dites-les moi. Et c'est pour ça que, notamment si vous voulez que je vous interviewe vous, il y en a qui me demandent des fois, je leur dis voilà, écrivez-moi un mail, racontez-moi votre histoire et enregistrez-vous pendant 3-4 minutes pour voir si vous êtes vraiment à l'aise à l'oral et si on peut faire un truc de cool. Bastien, est-ce qu'il y aura un épisode spécial pour les JO paralympiques? J'accélère un peu d'ailleurs au passage parce que ça fait déjà 50 minutes quasiment. Bien sûr, attends, les paralympiques c'est hyper important pour moi. J'ai déjà eu Marie-Amélie Le Fur, j'ai déjà eu Marie Bochet. Je vous conseille d'aller écouter ces deux épisodes parce que waouh, c'est décoiffant. Marie-Amélie Le Fur, elle a perdu sa jambe à 15 ans, elle était valide avant, enfin c'est son histoire, elle est impressionnante. Marie, c'est une sportive incroyable et qui s'assume et qui est vraiment impressionnante quoi. Elle a 20 médailles aux Jeux paralympiques. Je vais aussi avoir Alexis Akingrand qui est champion du monde de para-triathlon. Ça va être très très cool. Normalement, on doit se rencontrer fin janvier. Je croise les doigts pour que ça se fasse. Les paralympiques, c'est hyper important pour moi. Je sais que c'est pas les épisodes qui vous plaisent le plus. J'ai moins d'écoute, pour être tout à fait honnête. Je suis un peu triste, mais moi en tout cas ça me tient à cœur et ça reste dans mes valeurs. Donc je ferai bien sûr des épisodes avec des athlètes paralympiques. Voilà, j'ai Alexis Akingrand dans les cartons, où on doit se rencontrer et je dois aussi rencontrer Arnaud Asumami qui fait du saut en longueur, qui est super cool. Si vous avez d'autres, pareil toujours le compte Insta, vous me recommandez des gens. Quand tu auras atteint ton objectif des 100 interviews, est-ce que tu continueras? Et c'est une très très bonne question. Je sais pas si vous le savez, mais effectivement, j'ai l'objectif de faire 100 interviews. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. Je veux maîtriser l'art du podcast, hein, entre guillemets. Hein. Je veux rentrer dans la légende, comme je vous le dis tout le temps. Je veux devenir une référence du podcast de sport. Donc pour cela, je dois vraiment pratiquer et du coup, j'ai décidé d'aller au bout de 100 interviews. Au début, je m'étais lancé le défi d'en faire 5. Si ça me plaît, je me lancerai un nouvel objectif. Donc je me suis lancé l'objectif d'en faire 100 parce que je pense que c'est le minimum pour bien maîtriser. Là, franchement, honnêtement, j'ai déjà pris le virus du podcast. Je commence à avoir les premiers revenus. Donc je sais pas où j'en serai dans les 100 interviews. Là, on est à 25. Je sais pas du tout où j'en serais, mais ça m'a tellement changé la vie, ça m'a tellement apporté de bonnes choses, c'est tellement aligné avec moi-même que si c'est toujours le cas, je continuerai et je m'arrêterai pas. Ça c'est clair. Ensuite, les questions que vous m'avez beaucoup posées, quel est les sportifs que tu rêverais interviewer? Je me suis fait un petit top 5 hein, que vous connaissez sûrement si vous avez écouté le podcast. Alors au-dessus de tous, je pense qu'il y a Roger Federer, tout simplement parce que j'ai fait du tennis étant plus jeune et c'est pour moi une des légendes du tennis et c'est quelqu'un qui m'intrigue énormément parce que je sais pas, je me dis il m'intrigue parce que avant d'être celui qu'il est maintenant entre guillemets, c'était quelqu'un qui s'énervait énormément sur les cours, c'était quelqu'un qui cassait ses raquettes, c'est quelqu'un qui perdait ses nerfs assez rapidement quand il était jeune et il a tout changé et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a mis en place. J'ai envie de savoir un peu ce qui se passe dans sa tête parce que il laisse quand même des fois échapper on voit que c'est un humain, en fait. Il y a ce côté un peu machine. Et Rafael Nadal, c'est un peu pareil. Ils ont tous les deux, mais ils ont un côté machine de guerre, tous les deux. Et ils ont des côtés extrêmement humains. Rafael Nadal, c'est quand il explose de joie, quand il parle au public, on sent que c'est quelqu'un de sincère, de spontané. Quand il sourit, on sait que c'est pas qu'il ment pas, quoi. Bon, il sourit peu, mais il sourit peu sur un court, mais voilà. Et Roger, c'est un peu pareil. Lui, c'est plutôt dans le doute. On sent qu'il y a du doute à des moments, et on sent qu'il est humain et qu'il le contrôle. Et j'ai vraiment envie de savoir cette force mentale. Et en dessous de ces deux-là, j'ai mon top 5. Tony Parker, Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, que j'adore, Marie-José Pérec et Sébastien Chabal. Voilà, vous avez mon top 5. Je vais pas épiloguer sur pourquoi du comment, mais c'est vraiment les. Si j'en ai un des cinq dans l'année qui suit, je me dirais ok, c'est bon. Je peux. Si demain le podcast devait s'arrêter, je serais très 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 heureux. Voilà. Je serais vraiment allé au bout des choses. Sullivan, qui m'a demandé le sportif que j'ai interviewé qui m'a le plus marqué. Waouh, ça va être super dur d'en choisir un. Vraiment, j'ai pas de... Là, je suis un peu pris au dépourvu. Je n'avais pas préparé cette question-là. Non, franchement, je vais pas dire qu'il y en a un qui m'a le plus marqué. Après, par contre, je peux te citer des gens avec qui j'ai eu un peu plus de connexion. Tu vois, je me suis super bien entendu avec Jérémy Azou alors qu'on était en Skype. J'ai pris énormément de plaisir à rencontrer Vincent Defrane, quoi, qui est venu me chercher à la gare de train. On a fait une petite demi-heure de voiture. Il m'a montré son village. Il m'a emmené chez lui. On a déjeuné tranquille sur sa terrasse. On a pu discuter de tout, de rien. C'était vraiment cool. J'ai eu un peu la même expérience avec Francky Batelier, qui était vraiment très chouette. Vraiment une personnalité cool. Après, celle avec qui, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et qui aujourd'hui, alors le mot mentor est peut-être un peu fort, mais quelqu'un qui m'inspire énormément professionnellement, c'était Rudy Koya, parce que voilà, c'est un précurseur dans ce qu'il fait, il a des valeurs, il y déroge pas, et c'est ce que j'étais venu chercher en le rencontrant, et c'est quelqu'un qui a un puits de connaissances, en fait, c'est marrant parce que on peut avoir des biais cognitifs sur tout le monde. J'avais des biais cognitifs sur Arnold Schwarzenegger en pensant que c'était un gros débile, et quand j'ai lu sa bibliographie, je me suis dit mais en fait ce mec là est un génie, il est super intelligent et il a une force mentale de ouf, et n'importe quel objectif qui se lance, il y arrive. Ben Rudy, c'est un peu pareil. On peut avoir des a priori, on peut se dire ouais c'est un gros musclé, il a sa petite voix, des fois il rigole, il a son sourire un peu. D'ailleurs Rudy, si tu nous écoutes, je sais que t'en écoutes beaucoup, mais t'écoutes beaucoup d'épisodes, mais en tout cas je te salue, je te fais une grosse bise. Ouais, tu vois, Rudy, il a ce petit sourire un peu coquin, un peu enfantin, et en fait derrière il a une mémoire de dingue, il a une connaissance du sport de dingue, et c'est aujourd'hui c'est celui qui maîtrise le mieux son domaine. Sur tous, quoi. Dans la musculation, ce qu'on trouve sur le web, c'est de la daube. Et aujourd'hui, lui, il fait du contenu hyper qualitatif. Et sa méthode, c'est la meilleure. Donc, ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et puis, en plus, voilà. Il écoute ce que je fais, il aime bien, et enfin, j'espère, Rudy. Et en plus, il me donne des conseils pour entreprendre, donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime, et en plus c'est quelqu'un qui peut m'inspirer, ou sur lequel je peux un peu suivre sa trace et m'inspirer de ce qu'il fait. Le sportif décédé que tu aurais aimé interviewer, Sullivan aussi. Waouh, super question. Écoute, il y en a deux. La toute première, c'est, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'est passé il y a quelques mois, il y a une athlète paralympique qui s'appelle Marieke Verwoerd, qui faisait du 100 mètres en fauteuil, qui s'est euthanasiée. Elle avait 40 ans, je crois. Ça est arrivé fin octobre. C'est une athlète belge. Et en fait, son histoire, elle était rocambolesque, parce qu'en fait, je crois qu'elle a eu la médaille d'or à Londres sur 100 mètres, et elle a eu la médaille d'argent à Rio, il me semble. Et juste après avoir gagné sa médaille, elle a dit devant toutes les caméras du monde entier qu'elle avait les papiers pour être euthanasiée et qu'elle comptait le faire, que la douleur pour elle était insupportable, que même si elle était championne olympique, qu'aujourd'hui sa vie c'était un calvaire et que le sport c'était simplement un échappatoire. Et ben en fait j'avais vu ces images en 2016 et ça m'avait donné des frissons, et rien que d'en parler encore, je revois la vidéo et je vous encourage à noter ça. Je vous encourage à le noter, c'était Marieke Verwoerd avec deux O. Et vous verrez, la vidéo est vraiment prenante. Et voilà, et j'aurais bien aimé pouvoir vraiment la faire témoigner sur ce qu'elle vivait. Et j'aurais bien aimé être là pour lui faire passer un bon moment. Parce que comme je vous le disais, quand je passe du temps avec des sportifs, à chaque fois, ils ressortent avec le sourire. En tout cas, je me donne à 200% pour. Et si j'avais pu lui donner un peu le sourire... Et ben, ça m'aurait fait plaisir parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément, et elle a eu le courage de s'euthanasier, et c'est dans mes valeurs, c'est quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions, parce que j'ai rencontré des gens qui souffraient énormément, j'ai rencontré des gens qui voulaient mettre fin à leur jour, et ils souffraient tellement que voilà, même si au début j'étais contre, et je pense que tout le monde devrait se battre. Je pense qu'il y a aussi des douleurs qu'on peut pas vivre, et que voilà, quand on est une jeune fille et qu'à partir de 15 ans, on commence à avoir une dégénérescence au niveau de la génétique et qu'on commence à souffrir de plus en plus, je pense qu'il faut revoir la question. Voilà, je pense que la France, on est un peu en retard là-dessus. En Belgique, ils l'ont envisagé. En Suisse, ils l'ont envisagé. Et voilà, c'est un débat à avoir. J'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'il faudrait surtout donner la parole aux gens qui souffrent, et pas que les gens qui souffrent pas et qui ont des dogmes, un peu vieillots, nous les imposent, et qu'on soit plus à l'écoute de ces gens-là. Voilà. Petit coup de gueule qui vient de passer. Et la deuxième sportive que j'aimerais beaucoup interviewer, c'est Camille Muffat. Si vous vous souvenez, elle était dans l'accident de l'hélicoptère qui est arrivé sur le Paris-Dakar avec Alexis Vastine et j'ai oublié le nom de la troisième sportive, mais Camille Muffat, voilà, c'était peut-être la plus grande nageuse de tous les temps. Elle a été médaillée, elle a plusieurs médailles d'or au JO. C'était une nana qui était jeune, qui avait un avenir de ouf, et voilà, c'est aussi une tragédie, et je trouve pour une connerie d'hélicoptère. Donc et j'aurais beaucoup aimé l'interviewer parce que c'est une grande 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 championne, et elle est partie trop jeune selon moi. Bon, on va essayer de remettre un petit peu de sourire dans tout ça. Est-ce qu'il y a des sportifs inconnus que je souhaite interviewer? J'ai déjà répondu tout à l'heure. J'ai répété la question. Pardon. Alexandra Caldas, qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quelques autres dans les cartons. Je vous ai dit, c'est compliqué avec les sportifs inconnus. Je me demande toujours ce qui peut arriver. Alors qu'un sportif de haut niveau, je sais sur quel terrain je peux l'emmener. Je peux visualiser à l'avance. Donc c'est plus compliqué. Mais je ferme pas la porte juste pendant les 6 prochains mois. Ça sera un petit peu moins mon objectif. Ensuite, Agathe, quel sport as-tu pratiqué et quel sport pratiques-tu aujourd'hui? Et Bastien qui me dit, est-ce que tu as un objectif dans le sport? Écoutez tous les deux. Quel sport j'ai pratiqué? Moi, j'ai commencé par de la gymnastique. Très jeune, mes parents m'ont mis à la gymnastique. Ensuite, de mes 5 à mes 8 ans, j'ai fait du judo. J'ai eu une ceinture verte. J'aimais beaucoup. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas continué. Et je me suis mis au tennis. J'étais plutôt doué pour le judo, mais mon père a fait les championnats de France en junior. Il a une ceinture marron. C'était un bon combattant jusqu'à ses 16 ans. Et puis il est rentré en équipe de France. Et puis on lui a proposé de prendre des cachetons. Et du coup, ses parents n'ont plus voulu qu'il continue. Mais Mais voilà, moi j'étais pas trop doué. Je pense qu'on a un petit truc dans la famille. J'y pense du coup pour mon fils. et après, ouais, du coup, je me suis mis au tennis et j'ai fait du coup de mes 6-7 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai fait du tennis. Je suis parti presque en sport-études. J'étais en horaire aménagé à Montreuil, dans le tennis club de Montreuil. C'était chaud. Hein. Le club était juste à côté d'une cité. Je me suis fait voler plein de fois mon vélo. Une fois, je me suis fait racketter. Une fois, il y a quelqu'un qui a sorti un couteau pour me voler mon vélo. Et je suis parti en courant. C'était un peu la zone, mais j'en garde des souvenirs de fou. Après, je pense que j'ai été très bon en double, mais en fait, j'ai eu une croissance tardive et dans le tennis, c'était un peu problématique. Physiquement, j'étais en retard sur mes adversaires. Donc, j'ai jamais pu avoir un niveau de ouf. Pour ceux qui écouteront, voilà, je suis monté à 15-2 en simple et à 15 en double. Je jouais beaucoup en double. Et en fait, j'ai craqué. Je pense que j'étais pas fait pour les sports de duel. Le tennis, c'est vraiment un sport de duel. Peu importe si vous jouez bien ou mal, ce qu'il faut, c'est jouer mieux que l'autre. Ce qu'il faut, c'est gagner les points. Et il faut être sans pitié. Et c'est un peu dur. C'est un sport qui est assez frustrant parce que des fois, on joue très bien et on perd. Des fois, on joue mal et on perd aussi. Et du coup, moi, c'est pas trop un sport qui me fallait. Et du coup, après, j'ai fait 5 ans de rugby. C'était vraiment cool. C'était vraiment à niveau universitaire et avec les copains. Mais en tout cas, voilà, je me suis affirmé physiquement. J'ai découvert les sports co parce que c'était mon premier sport collectif. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais aussi pour mes enfants et pour le futur. C'est vraiment leur donner le goût du sport co parce que partager ça avec des amis, des coéquipiers, un coach, un staff, c'est vraiment quelque chose de très très fort et c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu, bah, avec des copains du rugby, on a fait un premier raid, et c'était le raid de la CCE, c'est une compète étudiante, c'est vraiment génial. Si vous êtes jeune et que vous êtes encore étudiant, renseignez-vous, c'est de la bombe, et franchement, si vous aimez courir et tout, c'est incroyable. Je crois que les adultes peuvent le faire aussi, enfin les adultes, les non-étudiants. Et ça m'a vraiment donné goût à la course à pied. Et du coup, après, je me suis mis vraiment à fond sur la course et du triathlon. Donc, j'ai fait beaucoup de courses à pied. J'ai 5 marathons à mon actif. J'ai 2 Alpha Ironman et 1 triathlon à mon actif. Et après, je progressais bien. Je suis descendu à 3h10 sur marathon. Je suis descendu à 5h20 sur Alf, mais en fait j'ai commencé à faire des calculs rénaux à répétition et en fait à chaque fois que je courais je commençais à avoir des saignements dans mes urines. Voilà, c'est pas très glamour mais j'ai pas de tabou et du coup j'ai dû être contraint d'arrêter. Donc là ça fait 3 ans et en fait à chaque fois ça repart. C'est des opérations qui sont assez douloureuses. Franchement je souhaite à personne. Les reins, prenez-en soin, c'est hyper fragile. Il s'avère que moi j'ai pas trop de chance. Donc là normalement je suis soigné depuis quelques jours d'ailleurs. Je sais d'où ça vient, je suis traité et du coup ces 2-3 dernières années je pouvais plus faire de sport d'impact et du coup je me suis mis beaucoup au CrossFit. J'adore, voilà, ça me fait kiffer. Et là ces 6 derniers mois plus précisément je m'étais mis un peu plus à la musculation et vraiment sur les méthodes de croissance musculaire. Donc ça a beaucoup marqué mon corps. Effectivement j'ai pris beaucoup de muscles, ça se voit. Mon corps vraiment a changé, mais il y a une certaine lassitude. Voilà, c'est pas très très amusant. Et si vous avez écouté l'épisode avec Rudy Koya, les compétitions c'est pas la joie et ça donne pas envie de préparer quoi. Ce genre de compétition ça m'intéresse pas du tout. Et je pourrais, hein, là aujourd'hui, il y a certaines catégories où je pourrais perdre du... Si pendant un mois je bouffe pas, je deviens tout sec, je pourrais monter sur un podium, mais c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Donc, je suis, pour être tout à fait franc, à la recherche d'un prochain défi sportif. Je vais me remettre à courir déjà, parce que je suis soigné. Ça va être un gros kiff, ça va vraiment me faire du bien. Et j'ai vraiment envie de faire des raids. Voilà, des raids, c'était vraiment cool. Donc, faut que je reconstitue une équipe. Je pars de zéro. Donc, si ça vous intéresse et que si vous êtes tenté de le faire avec moi, je vais me remettre à courir cet été. Bah, voilà, je vais essayer de pouvoir refaire un 10K ou un 15K et de pouvoir être bien. pouvoir être bien, m'assurer que tout va bien. Et à partir de cet été, si vraiment je me sens bien, j'aimerais bien voilà prévoir un raid avec des copains. Donc si ça vous tente, appelez-moi. Voilà. Je crois qu'on a assez duré. J'ai été hyper bavard pour quelqu'un qui voulait pas faire cet épisode. Voilà, vous comprenez pourquoi je voulais pas faire cet épisode et pourquoi je voulais pas parler autant. Ah si, il y a une dernière question. Quels sont les podcasts que j'écoute et que je recommande? C'est une longue question. Je vous la fais très courte. Il y a un podcast de sport que j'adore. Enfin, il y en a plusieurs. Les podcasts de sport que j'adore, il y a EPO. Ils sont très cool. C'est hyper marrant parce que je suis un passionné d'histoire. Et du coup, c'est des potes qui se rejoignent autour d'une table et qui refont des grands événements qui ont marqué l'histoire de sport. Et à chaque fois que je les écoute, je me marre, je rigole vraiment bien. Il y a le podcast de Nakan, de mon pote Hermano, sur la course à pied que j'aime bien. Je le trouve détente, relax. C'est très cool et ça rend vraiment. On sent qu'il y a du vécu et on sent qu'ils essayent pas d'être politiquement corrects et voilà, je trouve que leur podcast est vraiment cool. C'est pas du tout dans les clichés. Ensuite, pour la muscu, bien évidemment le Super Physique podcast de mon ami Rudy Koya que je recommande aussi. Pareil, je me marre vraiment. En dehors des podcasts de sport, les podcasts que j'ai beaucoup aimés ces derniers temps, j'écoute des podcasts d'histoire, donc il y a Culture 2000, voilà, c'est assez drôle aussi. Les mécanismes du complot, que j'ai découvert il y a pas longtemps mais que j'ai vraiment adoré. Les braqueurs, c'est des interviews d'anciens criminels qui ont braqué des banques, qui ont braqué des bijouteries. Ça a été fait par Arte Radio, c'est canon, j'ai adoré, je suis vraiment parti dans cet univers à fond. Déjà c'est pas mal. Puis j'en ai déjà cité pas mal en plus des podcasts tout à l'heure, donc vous savez un petit peu tout. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, vraiment merci si vous êtes encore là, merci infiniment d'avoir écouté jusque là. Vous êtes vraiment des auditeurs canons que j'adore. On est le 24 décembre au moment où j'enregistre et je sens qu'il y a ma compagne qui commence à avoir faim et qui me fait un gros bisou et voilà, je vois son ventre avec mon fils et je sens qu'il faut aller se nourrir et qu'on va aller passer un bon moment en famille. Je vous souhaite de superbes fêtes, je vous souhaite de passer une bonne année 2020, je vous souhaite de d'écrire vos objectifs sur un papier et d'essayer de les accomplir. Et s'ils changent, c'est pas grave. Moi je vous ai tout dit, j'ai essayé de me découvrir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi sur les réseaux sociaux. S'il y a des choses qui vous ont fait rebondir, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et qu'on continue cette discussion en vrai. Je vais organiser des rencontres avec vous, ça va être très cool, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, mais on va le faire, ça va être vraiment vraiment super cool. Allez, bon, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la deuxième saison du coup du podcast et pour de nouvelles aventures. Voilà, grosse bise à tous, ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.